Elle prêche beaucoup de retraites sur la prière aussi à l'école des saints, du Carmel. Mais elle donne aussi beaucoup d'enseignements sur la vocation de la femme, dans des écoles de couple, dans des groupes de prière des mères, mais aussi des retraites pour femmes, mais aussi dans les classes de terminale. Voilà, donc elle est habituée aussi à parler aux jeunes filles, si je comprends bien. Voilà. Voilà. Alors on va la confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
C'est par une femme qui a accueilli en son sein le Verbe de Dieu que le salut du monde a pu se réaliser. C'est quand même assez extraordinaire. Avec toute l'Église, donc nous croyons que c'est par le cœur des femmes, d'une manière spéciale, qu'il doit continuer, ce Jésus, d'être enfanté et donné au monde. Alors donc c'est bien de commencer toujours en se mettant sous le regard de Marie, lui demandant un cœur accueillant, disponible, comme elle sait l'avoir, elle, comme elle a su l'avoir, humble et réceptif, et en même temps un cœur ardent pour entrer dans cette dynamique, cette compréhension et cette dynamique du plan de Dieu sur la femme, que ça nous donne du zèle pour donner au monde ce qui doit être donné par nous. Pour compléter juste ton introduction, ta présentation, donc j'habite près de Châteauneuf-de-Galore, voilà, au lieu dit rien, ça c'est très important, je suis une femme de rien, donc ça ne doit pas vous impressionner. Nous habitons un quartier très pauvre qui s'appelle le quartier de rien, alors on en est très fiers. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Que notre famille est quand même marquée beaucoup par la souffrance, disons par le handicap, le monde du handicap et de la pauvreté, hein, à travers les enfants que nous avons adoptés, qui avaient tous des handicaps plus ou moins importants. Et puis, voilà, providence, on va dire, je ne sais pas. Oui, le Seigneur a permis aussi que même des enfants qui n'étaient pas handicapés physiques le sont devenus. Donc on a deux enfants en fauteuil roulant, une autre qui est en train de bientôt prendre le fauteuil aussi, plus des handicaps psychologiques, psychiques, je dirais, importants aussi. Et dans nos propres enfants aussi, puisque vous verrez mon histoire, mais nous avons pu avoir aussi des enfants. Il y a aussi des enfants avec des handicaps. Voilà, donc on est un peu marqué par ça. Voilà. Ça, c'est pour dresser le tableau. Bonjour, ici, c'est les femmes. Bien qu'il y ait des hommes qui nous demandent à chaque session, mais et puis qui ne sont pas contents, qui me disent « Oui, il paraît que vos retraites de femmes... moi, je voudrais bien venir à vos retraites de femmes parce que je veux mieux comprendre la femme, je veux mieux aimer ma femme. Et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une permission spéciale ?» Alors, je dis « Oui. » Bon, alors, on va se centrer pendant ces 3 jours donc, sur notre vocation. Voilà, vocation qui va être pour chacune de nous unique, hein, complètement originale. Il n'y a pas de copier-coller dans ce domaine. Hein, nous avons toutes quelque chose à donner, à transmettre, qui va refléter quelque chose de la magnificence, enfin de ce qu'est Dieu, hein, les hommes d'une manière spéciale et nous aussi d'une autre manière, mais chacune avec évidemment dans notre état de vie, dans notre une coloration spéciale, alors on n'y a pas de copier-coller dans ce domaine-là. La destination de la femme, dit Edith Stein, je m'appuierai pas mal sur elle, mais pas que, consiste, elle dit, à faire s'épanouir dans sa pureté ce que le Créateur a déposé en germe en nous. Donc c'est quand même très réconfortant de savoir ça. C'est quelque chose qui a été déposé en nous depuis que nous avons été désirés de toute éternité par notre Dieu. Quelque chose a été déposé en germe en nous, à notre naissance, bien sûr, conception-naissance, et qui doit éclore. Donc c'est simplement, voyez, on va collaborer pour faire éclore ce germe. Donc, il ne faudrait pas croire que la vocation est un sommet éloigné, qu'il nous faudrait atteindre à coup de, je ne sais pas quoi, en serrant les poings, en serrant tout ce qu'on veut, pour vraiment rentrer dans quelque chose. Et ça, ce serait vraiment très triste de devoir ressembler même à tel saint, on va laisser chaque vie de saint que nous pouvons lire de sainte, chaque personne que nous rencontrons, chaque femme qui nous impressionne par sa sainteté autour de nous, eh bien, doit simplement nous aider et nous stimuler dans le désir. Hein, c'est parce que tout problème, c'est le désir et l'élan. Hein. Je dirais que donc c'est pas un sommet éloigné, c'est pas une réussite impossible, hein, c'est pas un mirage inatteignable, mais c'est plutôt comme une source en nous qu'il va falloir laisser jaillir, qui est là depuis toujours. C'est un désir qui jaillit du fond de l'être. Vous voyez, telle une fontaine un peu inépuisable après, une fois que cette fontaine a été désensablée, elle est une manière d'être. Hein, une manière d'exister, un état d'existence, et peut-être encore, on va dire, un advenir. Elle est un advenir, la vocation, qui est presque avant tout dans le désir et dans l'élan. Vous voyez, l'accomplissement va se faire, c'est l'Esprit-Saint qui va nous faire entrer dans notre vocation, c'est évident. Mais nous, c'est important, vous voyez, on l'a dit déjà hier et ce matin, il me semble, mais qu'il faut vraiment laisser jaillir, laisser remonter ce désir. Donc, une retraite comme celle-là, vous voyez, c'est important de laisser remonter des désirs. Hein, quand on regarde la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'est-ce qui a été à l'origine de l'éclosion de sa vocation ? Ça a été de laisser monter des désirs en elle. J'ai envie d'être missionnaire, d'être prêtre, d'être soif pontificale, d'être etc., etc. Tous ces désirs qui sont montés. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces désirs ? Ben, on les offre à Dieu et on va laisser après Dieu nous conduire et réaliser tous ces désirs. Donc l'élan, le désir. Hein. Femme, deviens ce que tu es. Alors, on va prendre un petit temps pour regarder un petit peu le féminisme dans notre société, hein, se situer dans notre histoire, bonjour, se situer dans notre histoire, voilà l'histoire de notre monde, hein, on est femme, mais on est femme en 2013, hein, il se passe plein de choses, donc ça donne une configuration différente à notre paysage. Pour chacune de nous, nous sommes un peu voilà, inscrits dans ce paysage qu'on va regarder. Et puis nous verrons ensuite les impasses de ce féminisme, l'histoire du féminisme. Voilà. Et puis nous viendrons bien sûr, nous reviendrons à la Genèse pour regarder vraiment à l'origine qu'est-ce que Dieu a voulu pour l'homme et la femme, quelle est la destination de l'homme, destination de la femme. Ça va être très très merveilleux de redécouvrir ça. Alors on croit qu'on sait, ah ben oui, la Genèse, je sais, j'ai déjà lu, j'ai déjà entendu, mais il y a plein de choses à décortiquer là-dedans, à méditer pour nous, des leçons à prendre pour comprendre comment on fonctionne aujourd'hui, parce que notre péché originel, on en est tous marqués, et donc quand on peut démasquer ce péché, ben vous savez, on avance bien plus vite quand on a démasqué notre péché. Et après, nous verrons comment Marie, dans l'histoire du salut, est venue nous réconcilier avec notre être de femme en nous donnant Jésus. Et puis, je vous donnerai pour terminer mon témoignage personnel. Dans, voilà, mon histoire sainte. Parce que nous avons tous une histoire sainte. Alors, voilà, on ne le voit pas toujours, mais en fait, nous sommes tous embarqués dans une histoire sainte. Alors, le féminisme dans notre société. Donc, je vais en dire quelques mots, pas trop trop longtemps, parce que maintenant, plein de choses, on en parle beaucoup plus, évidemment. Mais pendant ces 10 dernières années, où je donnais des retraites pour femmes, j'en parlais beaucoup, et beaucoup de gens ne savaient pas de quoi y retourner, et c'était important de faire une information, hein, un réveil des consciences à partir de ce qui est en train de se passer. Alors, on va regarder d'abord des éléments positifs, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une grande mutation de la société depuis quelques décennies, où la condition de la femme a considérablement changé. Alors même si, dit Benoît XVI, même s'il y a encore des lieux où il y a une mentalité machiste qui demeure, des lieux ou des cultures où la femme est encore discriminée et sous-évaluée par le seul fait d'être femme, hein, néanmoins, il faut d'abord qu'on salue les avancées spectaculaires de ce dernier siècle grâce à des mouvements en faveur de la femme. On ne va pas oublier, parce qu'il y a quand même eu des choses extrêmement positives. Un grand processus de libération de la femme, les papes ont salué, tout siècle écoulé, là, commencé par Jean-Paul II, mais déjà Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, ont salué quand même tout cet effort considérable qui a été fait, toutes ces femmes qui se sont consacrées à la dignité de la condition féminine, à la conquête des droits fondamentaux. Hein, quand on pense au droit de vote 1946 seulement, c'est quand même récent, hein, et tout sur le plan social, économique et politique. Donc, alors que cet engagement était considéré comme une transgression, un signe de manque de féminité, hein, pour ces femmes qui ont fait ça, quand elles sont allées dans la rue, ça a été très mal vu, hein, et elles ont bravé ce regard des autres pour aller jusqu'au bout avec déterminisme de ces droits fondamentaux qu'elles voulaient faire obtenir à la femme. Donc l'objectif de ces mouvements, ça a été qu'on prenne au sérieux la femme, hein, qu'on la considère, qu'on obtienne du respect, voilà, de la considération, de la confiance pour ce que nous sommes, ce que nous pouvons apporter. Alors l'Église a rendu un hommage justement à cela, à ces femmes, et aussi de manière prophétique dans le message du Concile aux femmes, en disant ceci: l'heure vient, l'heure est venue où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude, l'heure où la femme acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu'ici. C'est pourquoi, en ce moment où l'humanité connaît une si profonde mutation, les femmes, imprégnées de l'esprit de l'Évangile, peuvent tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir. Vous savez, on retiendrait ça, hein. Qu'est-ce que nous avons à apporter au monde? Eh bien, nous pouvons tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir. Donc, il y a vraiment quelque chose que le Seigneur attend de la femme aujourd'hui. Et on va voir pourquoi et comment, mais Jean-Paul II, dans cette mouvance aussi, a poussé toujours la femme à prendre un rôle plus important et plus actif dans la transformation de la culture. Alors, lui, il disait ceci: pour changer la culture en faveur de la vie, des femmes ont un rôle singulier, sans doute déterminant, dans le domaine de la pensée et de l'action, celui de promouvoir un nouveau féminisme. Et il faut qu'on s'attelle tout à cela, hein, un nouveau féminisme. D'un côté, des portes sont ouvertes, bien sûr, et dans bien des domaines. Donc, on a vu la femme a pu donner sa pleine mesure. Elle n'a jamais possédé donc autant de droits qu'aujourd'hui. A-t-elle pour autant trouvé sa dignité? Grand point d'interrogation. Et son bonheur? Et fait-elle le bonheur autour d'elle? Grand point d'interrogation. D'un côté, des portes donc se sont ouvertes. Voilà, mais souvent, si on regarde, il s'agit de... C'est sur la vocation de la femme. Il peut, ce monsieur peut entrer. Vous pouvez entrer. Allez, regardez de plus près. Une libération, il s'agit plutôt d'une libération de l'agir, vous voyez, hein, elle s'est émancipée sur le plan de l'agir, elle est capable de se débrouiller toute seule dans la vie. Bon, toutes les femmes maintenant ont une profession, presque. Voilà, mais il demeure, même si extérieurement, elle paraît plus épanouie, en fait, quand vous discutez avec elles, sous les dehors de... Hein, elles sont très, très affirmées dans leur métier, dans leur... Moi, je le vois dans mes retraites femmes, je suis toujours impressionnée quand elles arrivent le premier soir, on discute à table, on a le droit de parler le premier soir, et je vois toutes leurs belles situations, elles ont toutes... Et moi, je me sens vraiment très, très petite, parce que je vous raconterai un autre moment, mais moi, je n'ai pas pu avoir... J'ai couru après un métier toute ma vie, j'ai jamais pu l'exercer. Et voilà, alors on est un peu impressionné. Et puis ben, le lendemain, je vois bien, quand elles sont en face d'elles-mêmes, qu'elles enlèvent leur masque, je vois qu'il y a un mal existentiel très profond qui demeure et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Un grand nombre de femmes aussi sont restées, bon, il ne s'agit pas de vous là, mais beaucoup de femmes sont quand même restées dans le monde, sont sous-développées, je dirais, sur le plan spirituel. Elles sont plus vulnérables, plus fragiles. Et alors aussi, elles ne savent plus trop, elles ont... Par rapport à l'homme, bien sûr, la place de l'homme aussi, c'est très compliqué. Elles ont pris beaucoup de pouvoir, les femmes, et donc l'homme ne trouve plus sa place. Et moi, quand je regarde dans ma famille, tous mes petits couples, qui ont maintenant une quarantaine d'années déjà, mais qui étaient partis plein de promesses, hein, qui ont épousé des filles, enfin vraiment, il y avait tout pour réussir leur vie, et puis on voit que bah, un ménage sur deux se défait, il n'y a pas du tout l'épanouissement attendu, c'est... et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Les hommes ne sont pas heureux, ne trouvent pas leur place non plus. Bon, c'est pas si facile que ça. Dans les grandes écoles également, on s'aperçoit que les filles arrivent souvent majeures de promotion. Alors ça, c'est reconnu maintenant, hein, mais que font-elles de cette supériorité? Alors, c'est pas qu'elles sont plus intelligentes, mais à l'intelligence, on associe, nous, une intelligence intuitive à notre intelligence discursive, hein, intellectuelle. On a cette intelligence intuitive et on a aussi du sérieux, on travaille, on sait travailler, une détermination pour le travail qui fait que, voilà, on peut arriver majeur de promotion. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette, entre guillemets, cette supériorité? Beaucoup de femmes, enfin en tous les cas celles de ma génération déjà, ont voulu être l'égale de l'homme et à tout prix prendre la place de l'homme, être l'égale de l'homme surtout. Et donc elles sont passées à côté aussi de ce qu'elles pouvaient amener avec leur féminité dans le champ professionnel. Elles avaient à rester femmes et souvent c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas. Je repense à une femme qui était venue un soir où j'étais à Paray-le-Monial, donc après chez une retraite pour les femmes. Et puis je vois une femme le soir au repas, on me présente une femme était là avec sa mère, elle faisait pas partie de la retraite et je l'ai invitée à la retraite, elle m'a dit je peux pas, je pars demain, je dis venez ce soir si vous voulez. Et c'était un peu ce premier enseignement que je donnais et le lendemain matin elle me guettait au petit déjeuner, c'était en silence mais elle a voulu parler absolument, il faut que je vous parle, j'ai été bouleversée, m'a-t-elle dit. Parce que voilà, je suis avocate internationale à Bruxelles, au patron. Vous connaissez, il faut que je fasse attention, mais je ne connais pas son nom. Et voilà, et donc j'ai réussi ma carrière professionnelle. Mais tout ce que j'ai fait, ça a été effectivement une quête permanente d'être l'égale de l'homme. Mon père avait projeté beaucoup de choses sur moi, et aussi, ça m'a profondément marqué. J'ai fait ce que mon père voulait, quoi, attendait de moi, et puis voilà. Et aujourd'hui, je suis très malheureuse, ma vie est un échec sur le plan affectif, et j'avais demandé à ma mère de venir à Paray-le-Monial, enfin, de trouver un lieu où j'allais pouvoir me reposer, et la mère l'avait amenée à Paray-le-Monial, se reposer sur le cœur de Jésus. Et elle m'a dit, vous savez, vous pouvez le dire aux femmes, c'est la vérité, c'est tout à fait ça. On a une quête comme ça pour être l'égal de l'homme, mais qui est complètement, enfin, qui nous fait passer à côté de notre véritable vocation. Alors, derrière tous ces témoignages, je crois qu'il faut donc admettre, dans ce processus positif de la libération de la femme, qu'on est influencé et ballotté depuis des années par divers courants idéologiques que maintenant vous connaissez, qui ne coïncide pas du tout avec une promotion authentique de la femme. Alors, je veux parler là ici du gender, donc de la théorie du genre. Alors, est-ce que quelqu'un ne connaît pas ça? Tout le monde a entendu parler, ça y est maintenant. Mais donc, je vous dis, il y a quelques années, j'avais trois doigts qui se levaient de personnes qui connaissaient, et puis personne ne connaissait. Et moi, j'étais à l'école un peu de Elisabeth Montfort, et donc avec un groupe de femmes, on l'accueillait de temps en temps, et elle nous mettait en garde contre tout ce qui était en train de se tramer au Conseil européen. Toutes ces femmes féministes radicales, il n'y avait qu'elles qui représentaient tout le monde, toute l'Europe, toutes les femmes européennes, et elle nous disait qu'il fallait qu'on se bouge, parce que si ça continuait, ça allait être terrible. Et elle nous décrivait tout ce qui allait se passer, tout ce qui était en train de se préparer. Voilà. Alors on trouvait que j'exagérais beaucoup quand je parlais de ça après. Et en fait, c'est complètement ça qui est arrivé. Hein. Tout ce qui s'est se tramé. C'est-à-dire que ces féministes sont très, très engagées. C'est des femmes déterminées. Ce qui veut dire que nous aussi, si on est déterminés, on peut faire avancer le cheminement, hein, les affaires. Mais elles sont très déterminées et très très présentes au moment où les lois doivent passer, où les consensus, les machins. Elles sont hyper présentes, hyper actives. Elles savent parce que elles pensent être dans le vrai. Elles pensent être dans le vrai. Hein. Alors. Donc vous connaissez, donc je ne vais pas en parler beaucoup, mais donc c'est un processus quand même culturel et anthropologique de déconstruction culturelle et anthropologique qui est le fruit d'un long parcours révolutionnaire occidental depuis la Révolution française 1789 et qui a été mû par une conception fausse de l'égalité entre les sexes et une volonté perverse de se libérer l'individu de tout cadre normatif, de tout cadre donné par la tradition, par l'Église, par la révélation, par Dieu lui-même. Donc les militants les plus radicaux souhaitent que, voilà, il faut que chaque individu s'auto-détermine pour choisir librement son genre, sans que l'anatomie, la biologie n'interfèrent dans ce choix. Donc voilà, la femme est vue comme pure citoyenne, individu, hein, détentrice de droits, surtout contraception, avortement, éducation sexuelle laïque, fécondation in vitro, stérilisation volontaire. Voilà. Il faut savoir aussi que cette loi du gender, vous savez, est promue par l'ONU depuis des années. Hein, ça a commencé avec à Pékin, hein, je ne sais plus, en an 2000. Pékin, c'était 2000 peut-être, ou juste un peu avant. La théorie du genre, donc ça a été la nouvelle idéologie qui a été promue à ce moment-là, avec la conférence de Pékin. Et toutes les diverses agences, en particulier l'OMS, l'UNESCO, énormément d'ONG. Voilà, et donc elle est devenue le cadre de la pensée, on peut dire, de la Commission de Bruxelles, complètement, du Parlement européen, des différents pays membres de l'Union européenne. Elle inspire les législateurs, vous le voyez, on l'a bien vu ici en France, de ces pays en créant de nombreuses lois pour redéfinir le couple, mariage, etc. Et elle succède à l'idéologie marxiste, hein, voilà, tout en étant plus oppressive presque et plus pernicieuse. Alors, moi je voulais juste une petite chose, je voudrais dire deux, trois petites choses juste là-dessus. C'est que je pense que vraiment il y a... ça va aller très loin, ça va aller très loin. Nous en France, notre ministre a écrit dans deux livres qui ont été publiés, l'un en 2008 au Seuil et l'autre en 2010. Il a écrit ceci: la Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient... Ah oui, mais ça ne vous intéresse pas, vous êtes belge. Ça fait rien. Oui. Alors, donc il dit, la révolution est un événement métahistorique, et donc on part tout de la révolution, c'est-à-dire un événement religieux. La révolution implique l'oubli total de ce qui précède la révolution. Donc, on a l'impression qu'on redémarre, hein, un monde à partir de la révolution. Donc, l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines. Pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Donc tout ce qui était avant la révolution, il faut éliminer. Et c'est bien, alors écoutez les termes, c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation. Vous voyez un mot qui est utilisé pour l'Eucharistie. Transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école. Donc cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Alors ça, c'est dans un livre, au Seuil, « La Révolution française n'est pas terminée ». Ça, c'est de Payon, notre ministre. Et encore dans un autre livre, « Une religion pour la République », page 277, si vous avez un jour ce livre, mais ne l'achetez pas, ce n'est pas la peine, mais je vous dis la citation. « Car toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. » Alors, vous voyez tout ce qu'il y a derrière, hein, ces lois, derrière tous ces gens qui sont dans... Hein, c'est vraiment un monde... Oula, j'ai oublié d'appuyer là-dessus. Non, voilà. Donc, on est au bord du gouffre. Une grande bataille donc s'est engagée avec des machines de guerre, hein, on peut dire, qui s'attaquent frontalement à la dignité de la personne humaine, au mariage, à la famille... en mettant en péril l'humanité, hein. Il s'attaque essentiellement à l'amour, il s'attaque au père, comme on a dit ce matin, c'est le père qui est visé, qui est déjà depuis un moment éliminé, qui est prié de se retirer. Donc on est secoué par une grosse tempête, bon, qui menace de faire sombrer l'humanité, mais on est là, hein. Et donc on va veiller, on va prier, on va jeûner, on va s'engager, on va voilà, il faut s'unir, il faut se regrouper, il y a des choses à faire. Marguerite Peters, je vous recommande son livre, le dernier livre qui s'appelle Le gender, une norme mondiale, point d'interrogation. Elle nous stimule vraiment à l'engagement en faveur de la vocation de l'homme et de la femme, justement. Elle dit, il faut faire des retraites comme celle-là, il faut promouvoir à nouveau tout ce que Dieu, justement, tout ce que la tradition, tout ce que l'Église nous a enseigné. C'est le moment ou jamais de promouvoir tout ça. Je me dis, ben, c'était prophétique quand à la communauté de l'Emmanuel, il y a une dizaine d'années, les responsables, les chapelains ont dit qu'il faut absolument faire des retraites pour les hommes, des retraites pour les femmes, pour retrouver le sens de notre vocation. Je pense que c'était vraiment prophétique. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, elle dit donc comment résister dans son livre, comment résister. Donc, un réveil, il n'y a pas d'autre alternative qu'un réveil des consciences, ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est très très positif, c'est plein d'espérance. Les gens commencent à comprendre de quoi il s'agit. La conscience permet à la personne et au peuple de chercher le bien, l'amour, la vérité, ce qui est bon pour eux, conforme à la vérité. Voilà, il faut s'informer par tous les moyens qu'on peut, hein, c'est les moyens de diffusion. Il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille chercher des choses là-dessus. Il faut photocopier des documents. Il faut avoir dans notre sac à main, il faut avoir des choses précises à dire, parce que il faut pas avoir peur d'en parler et oser dire que je sais pas moi, que l'embryon est une personne. Il y a des tas de choses à redire. Il ne faut pas qu'on ait peur de cela. Si nous, on ne le dit pas, évidemment, c'est fini, quoi. Donc, il faut s'informer, voilà, apporter des citations. C'est un combat d'idées, hein, qui se mène de personne à personne. Et puis, alors, ça va devenir plus compliqué maintenant, parce qu'il y a un cadre administratif, il y a une loi qui a été votée, donc c'est un peu plus compliqué. Mais, donc, vous savez que des parents ont déjà été condamnés avec sursis, hein, en refusant de suivre en Allemagne faire suivre aux enfants les cours d'éducation sexuelle. Voilà. Alors là, il faut s'associer absolument dans un collectif, sinon on risque effectivement de perdre son travail, de perdre. Donc dans les différentes professions, puisque toutes ces il y a des actes gouvernementaux qui ont été votés pour nous, en tous les cas, au mois d'octobre. Vous, c'est peut-être déjà fait depuis longtemps, je ne sais pas. Mais donc, dans toutes les professions, on va imposer cette théorie du genre. Elle va être enseignée et avec... Vous voyez, c'est un forcing qu'ils font. Hein, ce n'est pas du tout... Il faut être au courant. Voilà, faut pas discriminer ces pauvres petits... homosexuels. Ça, ce n'est pas ça du tout. Ça va être... c'est un forcing, vraiment... maintenant, des professeurs me disent cette année, ça y est, dans leur classe, il y a 2-3 couples de lesbiennes. Un professeur me disait, alors, Nastit, dans un petit village à côté de chez nous, ben moi, ça y est, j'ai un petit garçon qui vient une semaine habillé en fille, une semaine habillé en garçon, mère pour lui permettre de choisir. Et on ne peut rien dire. Hein. Alors, d'autres professeurs aussi, encore de la communauté, dans d'autres villes, là, un peu plus loin que chez moi, à Angers, il dit, ben, en fin d'année, déjà l'année dernière, des professeurs étaient, c'était un homme, et à la rentrée, c'est devenu une femme, il est arrivé en femme, il a changé de prénom, et des élèves font pareil maintenant, hein. Voilà. Et on peut rien dire, hein, parce que la loi est pour eux. Donc, on va être vraiment confronté à tout cela. C'est à notre porte. Et l'éducation sexuelle, toujours des petits enfants de 8 ans, hein, qu'on voulait emmener voir, alors en France, alors une exposition qui se promène dans toute la France. Alors, c'est ravissant comme titre. Expo sur le zizi, je ne sais pas comment il l'appelait, Expo zizi. Et j'ai été voir un peu sur le site de quoi y retourner, mais c'est effrayant. Hein, effrayant pour apprendre déjà à des enfants de 8 ans, 10 ans, qu'est-ce qui se passe dans une relation sexuelle, comment tous les signes, enfin c'est vraiment... Bon. Alors là, bah pareil, il faut que les parents tout de suite ont réagi, on dit, bah, on va s'unir, et nous on refuse que nos enfants aillent à cette exposition. Voilà, donc il faut rester attentif. Et se dire que... voilà, là, il y a une espérance, vous voyez, parce que finalement, on est responsable un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On a laissé couler plein de choses. On a, même nous, parents chrétiens, on a demandé à faire des fivettes, des enfants, à tout prix le droit à l'enfant, on l'a demandé aussi. Hein. On n'a pas réagi, l'avortement, est-ce qu'on s'est mobilisé, est-ce qu'on a fait des manifs, etc. Pas tellement. Hein. Donc, on a laissé faire les choses. Donc, aujourd'hui, ben, c'est la suite logique, hein, de tout ce qu'on a laissé passer. Mais se rappeler la victoire du petit David devant le géant Goliath, hein, lui avec quelques petites pierres et sa fronde, eh ben il a réussi à faire tomber ce géant, parce que c'est un géant qui paraît un colosse comme ça, hein, mais qui a des pieds d'argile, qui est finalement il est impressionnant, mais il a des pieds d'argile. Et donc une pierre bien lancée. Moi je suis allée aussi en Pologne depuis 3-4 ans, là je vais donner des retraites pour femmes, et il me disait qu'au moment du communisme, il y a eu différents éléments. Le pape Jean-Paul II a aidé, bien sûr, à ce que le communisme tombe, mais pas que cela. Et il dit qu'à une époque, des milliers de personnes ont décidé en même temps de mettre leur poste de télévision à la fenêtre, du côté fenêtre, l'écran, merci, côté fenêtre, voilà, pour refuser d'être intoxiqué, hein, par tous les médias communistes. Et là, ils ont, ça les a, mais ils ont été démunis. Ils n'ont pas su quoi faire. Le gouvernement a été complètement... ils ont dit, mais là, on ne peut plus rien faire si on ne peut plus influencer. Si... Et ça fait partie, ils disent, que ça fait partie de l'histoire de la chute du communisme. Vous voyez, des gestes collectifs comme ça qui peuvent marquer profondément notre résistance. Hein. Et les manifs ont pour but cela, mais il y aura certainement d'autres choses, le jeûne, la prière, puis par-dessus tout l'amour, hein, parce que c'est l'amour qui va vaincre, mais vivons pleinement, nous, dans l'amour, vivons notre vocation de femme, notre vocation de couple ou de religieux, chacun dans notre état de vie, allons jusqu'au bout de l'amour. Et c'est ainsi que, voilà, le petit David, il a été capable de renverser ce grand géant. Voilà, j'en arrête là. Pour dire simplement, pour nous comme femmes, revenons à notre vocation, nous, de femmes. La femme, dans cette histoire-là, comme mère, elle va être dévalorisée complètement. Hein. On va lui présenter la famille comme un obstacle à son épanouissement. Et ça, c'est de plus en plus aussi suggéré, un obstacle à sa liberté. Donc, il faut qu'elle se libère de son rôle de mère, d'éducatrice. Vous voyez, il faut des crèches tout petits, faut lui... Voilà. D'ailleurs, Vincent Peillon a dit aussi qu'il voulait arracher les enfants au déterminisme de la famille. Arracher par tous les moyens l'enfant. Donc, vous voyez, il va nous être proposé différentes choses pour que l'enfant ne soit pas éduqué par la famille. On supprime des allocations, des choses qu'on donnait avant, des avantages. Hein, et voilà. Et il faut que la femme puisse s'épanouir toujours à l'extérieur du foyer. Chose qui n'est pas du tout opposée. Elle peut, mais on verra comment la femme doit essayer, voilà, répondre à ces deux missions. Donc le féminisme radical veut opposer donc maternité et travail, c'est ça. Il y a une association en Amérique qui s'appelle la Child Free, veut dire libre d'enfant. Et dans cette association, ils disent que vraiment la maternité est vraiment montrée comme une perte. Alors ils disent perte de la liberté de mouvement, perte de leur énergie, perte de leur argent, perte de leur intimité de couple, perte de leur plaisir, donc de leur identité aussi. Voilà. Alors, avec toutes ces influences, on comprend qu'aujourd'hui, la femme est écartelée, elle est tiraillée, elle est ballottée, culpabilisée, hein, et elle a de multiples casquettes, elle voudrait essayer de tout réussir, son boulot, l'extérieur, en même temps, il y a sa vocation d'épouse, enfin, vous voyez, et puis de bénévole aussi dans la paroisse, on veut tout faire. Hein. Alors, comment va-t-elle trouver son unité? Eh bien, là, on va devoir... Parce qu'il faut prendre conscience que nous sommes au cœur des luttes actuelles. Le démon cherche actuellement à détruire tous ceux qui peuvent transmettre et donner la vie. Hein, il s'est toujours attaqué à cela. Donc aujourd'hui, c'est les prêtres qui peuvent donner la vie divine, et puis les femmes qui vont transmettre la vie. C'est par nous que la transmission de la vie se fait. Donc, on est peut-être les plus attaqués. Hein. La femme et le prêtre, aujourd'hui, s'attend vraiment à une vision, enfin voilà, de destruction. Il veut détruire en elle la capacité d'aimer, la responsabilité à l'égard de la fécondité, hein, de l'éducation. Et faire croire à la femme que son bonheur plaigné n'est pas dans l'obéissance au père, une méta-tentation, c'est la même qu'à l'origine, hein, on va y venir tout à l'heure. Voilà, faire croire qu'il faut qu'elle prenne en main son bonheur et elle ne va pas le recevoir de Dieu. Hein. Voilà. Et nous faire croire qu'on peut se sauver sans Dieu en étant indépendante. Bon, alors, il est temps de regarder, faire un regard sur nos origines, parce que c'est là que nous allons trouver notre unité et le sens de notre vocation. Vous allez voir pourquoi ai-je été créée, dans quel but, où est-ce que ça me mène tout ça. Donc, on est appelé à redécouvrir la raison du commencement, de la fin de notre existence terrestre, et c'est là que, dans cet acte que Dieu a posé, en nous créant, ben, on va retrouver une profonde stabilité spirituelle et affective. Hein, de l'assimilation et de l'acceptation de notre condition de créature aimée par un Dieu personnel, naîtront la connaissance et l'intégration joyeuse de notre être féminin. On y trouvera sécurité personnelle, la victoire sur la peur, hein, parce que tout ça, ça nous fout la frousse un peu, le sens de la vie, la motivation pour aimer et faire que sa vie devienne un grand projet. Alors, si on se met à l'écoute de la parole de Dieu, en reprenant la Genèse, je vous invite dans vos temps de prière de le relire paisiblement, à travers tout ce que je vais vous dire, ça aura peut-être une sonorité un peu différente. Au milieu de ce marasme, c'est une véritable lumière qui nous est offerte. On va y découvrir que la différence entre l'homme et la femme est une alchimie unique qui donne à notre humanité son vrai visage. Alors, on va voir que premièrement, que l'origine de tout, évidemment, de toute vie, c'est Dieu lui-même. L'homme et la femme sont créés par Dieu à son image, à sa ressemblance. Ils sont égaux, tout ça vous le savez, je sais bien, mais je vous le répète. Ils sont ensemble dans la complémentarité, image de Dieu. Donc toutes, nous aurons à refléter quelque chose de l'image de Dieu. Citation Genèse 1, 27. Dieu créa l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Voilà. Et Dieu vit que cela a été très bon. Chacun des êtres qu'il a créés, il s'en est émerveillé, on nous l'a dit aussi. Il s'est émerveillé de sa créature. Et il est fou, amoureux de chacune de ses créatures. Nous sommes, comme il a dit ce matin, la perle précieuse. Nous sommes une perle précieuse. Et oui, c'est lui le diamant, mais voyez, on est chacun une facette de ce diamant. Donc il nous aime profondément, quoi. On est quelque chose de lui, quoi. Ben oui, comme les enfants qui viennent de leurs parents. Et on comprend ce bonheur qu'a eu Dieu de nous faire participer à sa joie et de nous créer que pour le bonheur, quoi. Bon, alors, également, par ailleurs, l'homme et la femme sont égaux en dignité. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, c'est dit depuis l'origine. Alors, je vais prendre le deuxième récit qui est dans la Genèse, au chapitre 2, donc, qui est plus parabolique, puisque vous savez qu'il y a deux récits. Hein, Dieu qui crée le premier jour, le deuxième jour, etc. Hein, Dieu vit que cela a été bon. Et puis le deuxième récit, où Dieu crée l'homme, mais avec une intention particulière d'amour. Et on voit qu'il le modèle avec de la glaise. Hein. L'homme est modelé d'abord avec de la glaise, du sol, puis il va planter l'homme dans le jardin, il va y mettre des plantes, enfin oui, planter l'homme, c'est pas tout à fait le terme, juste, mais il va mettre l'homme au milieu de tout cela, des animaux, il va le combler de biens extérieurs. Voilà. Mais il va laisser l'homme un certain temps à sa solitude. Et donc ça, on le voit aussi dans le texte. On peut se poser la question, pourquoi il a pas tout de suite donné un vis-à-vis ? Eh bien non, il a laissé un certain temps pour qu'il réalise que seul, il ne peut pas communiquer son amour. Et donc il a un manque, il ressent un manque. Voilà, alors il le laisse avec ce manque. Et puis il vient combler ce manque en le mettant dans un profond sommeil extatique. Et il va prendre une côte, c'est-à-dire l'os du cœur, hein, un os du cœur, et il va fabriquer la femme. Là, c'est vraiment le mot qui est employé. C'est le même que pour la fabrication, la construction du temple. La femme, elle est bâtie comme le temple. Hein. L'homme, il est pétri avec de la glaise, et nous sommes bâtis. Alors Dieu lui présente la femme sortie de sa côte, le complément du cœur. Et la femme, donc, a été créée pour être dans la complémentarité, vraiment, complètement, de l'homme, et lui permettre de communiquer son amour et d'être alors pleinement lui-même. Tu vas préparer tout doucement la tortue. Voilà. Et la femme est donnée à l'homme pour l'amener donc aussi à la véritable écoute de Dieu, le conduire à l'adoration, qu'il puisse retrouver son intériorité. Parce que c'est comme si on lui avait enlevé un peu de son intériorité. On lui a enlevé quelque chose de son cœur. Et donc, nous, on va l'aider à retrouver cette complémentarité. Alors, non, c'était pas celui-ci. Alors, attends, ça, il faut le cacher, celui-là. On va retrouver un autre. C'est des petites surprises, mais... Là, derrière le plastique. Voilà. Voilà, alors, voilà. Vous voyez, c'est un véritable vis-à-vis que Dieu a créé la femme pour être en vis-à-vis de l'homme. Et ce n'est pas d'abord sa partenaire sexuelle, c'est d'abord être un vis-à-vis, être dans cette complémentarité, être sa sœur en humanité. C'est d'abord cela. Hein. Il a voulu cela. Est-ce que ça passe ? Oui, tout juste, voilà. Alors ça, c'est un ami sculpteur potier de la communauté qui m'a fait ses statues. Alors, voici l'os de mes os, voilà la chair de ma chair. Il la reconnaît vraiment. Tu es tout entière de moi, tu es un autre moi-même, hein, avec qui je peux en communion et complémentarité, je peux rendre gloire à Dieu, je peux rendre à Dieu tout honneur et toute gloire. Voilà, alors on verra aussi qu'il y a cette force de l'homme qui va garder la femme, on y reviendra. Mais la femme va être la source de la force de l'homme. Hein. On peut presque mettre l'autre si tu veux, va. Allez. Un homme est fort, l'homme il va être un soutien énorme pour la femme. Mais il est fort parce qu'il y a la femme qui est, comment dire, qui est sa colonne d'appui. L'homme a absolument besoin d'une colonne d'appui. Mais c'est très mystérieux, mais il y a... nous, on a besoin de la protection de l'homme. Et en même temps, vous voyez, la femme est la colonne d'appui. Hein, le Stabat Mater, vous voyez, Marie qui est au pied de la croix, on peut penser, vous voyez, qui est là et qui permet à Jésus d'aller jusqu'au bout de son offrande, vous voyez, qui est sa colonne d'appui quelque part. Donc on a besoin les uns des autres. Il y a quelque chose vraiment de beau à méditer. L'homme est fort parce qu'il a la colonne d'appui et la femme est forte parce qu'elle se livre pour être colonne d'appui. Et c'est là qu'elle va trouver sa stabilité de colonne, son stabat. Alors la destination de la femme, là voyez, on voit à travers déjà ce texte, c'est d'être ézère. Dieu a créé la femme en vis-à-vis pour être une aide pour l'homme. Non pas bobonne, hein, pour, comme on pensait encore il y a un siècle ou un demi-siècle, hein, où les femmes devaient, la parfaite femme, là, c'était celle qui amenait l'épouse, c'était celle qui amenait les pantoufles à son mari. Enfin, faut voir, j'ai relu des livres là-dessus, c'est effrayant. Alors, il ne s'agit pas du tout de ça. Mais vous savez que ce mot est très fort, ézer, il est employé dans la Bible pour quelqu'un qui est en danger de mort. Et c'est ce terme qui est utilisé pour Dieu. Quand Dieu vient au secours de quelqu'un qui est en danger de mort. Donc c'est très fort. C'est très fort. Ézer, c'est être une aide pour Adam, hein, qui est lui aussi en danger de mort. S'il n'a personne pour communiquer son amour, ben c'est Narcisse qui va se noyer dans sa propre image. Donc heureusement que nous sommes arrivés pour l'aider voilà, dans ce face-à-face, d'être une compagne. Donc notre Ézer, c'est plutôt, vous voyez, la compagne. Hein, une compagne, quelqu'un, mais c'est très très beau. Hein, être aide de l'homme, c'est être un soutien à ses côtés, réaliser un service d'amour et de miséricorde. Hein, aider quelqu'un qu'on aime, je crois, dans ses faiblesses, dans ses aspirations profondes. Il n'y a pas plus belle vocation, c'est magnifique. Aider quelqu'un à aller vers ce vers quoi il doit aller. La réalisation de sa vocation, je pense que c'est une des plus grandes choses qui soit. Voilà, mettre toutes ses forces, toute son énergie. Alors ça, c'est... oui, je vais revenir. Donc, je vais revenir là-dessus. Mais je veux dire, l'homme ne peut pas vivre... cette complémentarité, elle est essentielle, hein, et on veut nous la supprimer, cette complémentarité. Et vraiment, c'est toute la fécondité qui dépend de cela. On le voit dans le mariage, on le voit dans la construction du monde, construction dans l'Église aussi, sous diverses formes. La dualité a toujours été présente. Et elle est source de fécondité. Hein, donc ça, il faut oser le dire aussi. Ces deux façons de se donner sont complémentaires. Maurice Zindel dit « L'homme sans la femme ne saurait où aller, et la femme sans l'homme ne saurait qui accueillir. » Donc l'homme et la femme ont une manière de se donner aux autres différente, complémentaire, mais il y a une source d'attraction dans cette complémentarité, source de fécondité. Alors n'ayons pas peur de redire, la différence homme-femme sont naturelles, voulues par Dieu, réjouissantes, parce que source de complémentarité, d'échange réciproque, hein, de dons, de vie, de fécondité. Dieu les bénit, leur fit de multiples dons. Soyez féconds, etc. Donc, la destination de la femme, Edith Stein dit, c'est d'être une compagne. Avec Dieu nous a donné, pour cela, un don particulier, l'anthropathie. C'est-à-dire qu'il nous a donné ce qui correspondait à notre vocation. Donc, elle a étudié, Edith Stein, elle est très intéressante parce que c'est avec la féminologie qu'elle a étudié, elle a étudié les phénomènes, elle regarde les choses concrètes, qu'est-ce qu'une femme vit, comment elle vit, et à partir de toutes ces études, elle en a conclu que la destination de la femme, c'est d'être une compagne, d'être une compagne. Et là, sa spécificité, pour vivre cela, eh bien, Dieu lui donne un don naturel qui est l'intropathie. Qu'est-ce que ça veut dire que l'intropathie ? C'est la source du savoir sur autrui, c'est-à-dire être capable de percevoir les sentiments d'autrui. Vous voyez, une espèce d'intuition féminine qu'on se connaît bien. Hein, mmh. Hein, l'homme, par exemple, quand j'invite des amis, puis que je dis à mon mari, après, tu as vu une telle qui a pleuré au milieu du repas. Ah, mais je n'ai rien vu du tout, il ne voit pas. Hein, ou dans un bureau, immédiatement, on sait quand quelqu'un arrive voilà, au travail. Et si on sait reconnaître tout de suite qu'à travers les traits de la personne qui rentre, est-ce qu'elle a eu quelque chose qui a été difficile à vivre. Voilà, c'est le Seigneur nous donne ce don qui va nous permettre effectivement d'être une compagne, de pouvoir accompagner, de pouvoir s'occuper aussi, par exemple, des enfants qui vont nous être confiés. On a besoin de cette intropathie. Hein. C'est un peu comme l'empathie. Vous voyez, elle emploie ce mot. Je pense qu'il est un peu plus spécifique quoi, que la sympathie, que l'empathie. Hein. Avoir cette source du savoir sur autrui. Et puis, elle dit une autre chose qui nous a été donnée, c'est une faculté d'adaptation. Et ça, c'est très précieux, ou une volonté d'adaptation. Voilà. Alors, sur cette première destination, on verra dans deux jours, là, se greffe la seconde, qui est d'être mère. Hein, on développera cet aspect un peu plus tard. Voilà. Alors, je regarde là simplement pour voir combien de temps il me reste. 20 minutes. Alors, je ne vais peut-être pas prendre aujourd'hui, je prendrai peut-être demain, Ève et le tentateur, parce que là, c'est très intéressant, mais ça vous fait quand même beaucoup de choses. Et je vais te prendre mon témoignage pour vous distraire un peu, parce que vous avez été très sage, vous avez bien écouté, faire une petite distraction, et on verra demain comment la triple division qu'a provoqué le tentateur, et là, toutes les conséquences pour notre vie de femme. Hein. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Alors, j'en viens maintenant donc simplement à cet événement chez Marie, la Vierge Marie, qui a été au centre de... Oui, parce que je fais un gros saut, vous voyez, sur la chute originelle et ses conséquences qu'on prendra demain. Et qu'est-ce qui nous a réconciliés qui va nous réconcilier avec le Père, puisque pour l'instant on est séparés du Père, on était séparés du Père, c'est évidemment la venue de Jésus dans le sein de Marie. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Vous voyez comme c'est beau, Saint Paul ne l'appelle pas par son prénom, Marie, il l'appelle né d'une femme. Hein ? Il la désigne comme femme. Donc la femme se trouve au cœur de cet événement. Et c'est dans le texte de l'Annonciation. Et si je vous le lis, c'est parce que ça a un lien avec mon propre témoignage, effectivement. Vous allez comprendre pourquoi, mais c'est très beau. Donc, Marie qui reçoit cette Annonciation. Alors, je vous lis. Sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge... fiancé à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. Alors, vous allez fermer les yeux, et vous allez écouter cela comme si l'ange venait vous visiter, vous maintenant. Parce que je pense que c'est ça que le Seigneur veut, s'il avait fait vivre cela à Marie, il veut nous le faire vivre à chacune, vous voyez, une annonciation. Voilà, quelque chose peut naître de toi. Il entra et il lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Voilà, alors on voit cette promesse, cette révélation bouleversante que l'ange vient faire à Marie. « Tu es connue de Dieu plus que tu ne te connais toi-même, que tu ne peux le concevoir. » Ensuite, c'est une promesse, hein, une promesse, l'Esprit Saint viendra sur toi, un engagement divin, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et la réponse de Marie, c'est d'abord une écoute silencieuse, elle accueille, elle accepte, puis une interrogation simplement, comment cela va-t-il se faire? Et ensuite, on voit son adhésion, son consentement, là, tout un travail que nous avons, nous, à faire, hein, d'entrer dans l'acceptation humble et joyeuse, un consentement, un abandon, pour arriver à dire « Je suis la servante du Seigneur ». Et comment est-elle servante, Marie ? Elle est servante en laissant la parole de Dieu la pénétrer, hein, en se laissant féconder par la parole de Dieu, en se laissant engendrer par la parole. Ce sera notre travail pendant cette session, puis tous les jours de notre vie, laisser la parole de Dieu nous transformer, nous féconder. C'est vraiment Marie qui va nous entraîner, nous conduire à la découverte de notre triple vocation de femme, d'épouse, de mère. Et je voudrais juste, avant de prendre mon témoignage, vous dire qu'à la quête du pouvoir, vous voyez qu'on a vu tout à l'heure dans ce féminisme à tout craint, eh bien Marie répond « Je suis la servante du Seigneur ». Au refus de donner la vie, toutes ces femmes qui refusent de donner la vie maintenant, Marie répond par son fiat. Au droit de disposer de son corps, Marie se présente comme celle qui reçoit et qui donne. Hein, tout en nous est fait pour recevoir, pour accueillir et pour redonner. Hein, elle est dans ce mouvement permanent. Au rejet de l'homme dont on a parlé, hein, aux frontières du couple et de la famille, et pour mieux se libérer de sa domination et prétendre à l'égalité, eh bien Marie va se montrer comme l'épouse à qui Dieu confie le nouvel Adam, son fils, pour faire une œuvre commune. À la séduction, qui est utilisée comme arme fatale, eh bien Marie s'efface devant son Dieu comme à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Vous voyez, et enfin, au lieu de la passion-possession, elle vit la passion don en offrant son fils à la croix. Elle reçoit Jean et par lui toute l'humanité. Nous avons toutes pris place dans son cœur en acceptant que son fils lui soit arraché. Elle a donné son fils et on lui a enlevé de son cœur pour que tous nous puissions avoir une place dans son cœur. Donc toute la personne de Marie va nous aider à vivre selon l'ordre de l'amour reçu et donné. Et le signe le plus évident de ça, c'est la maternité. Et on verra vraiment que c'est la maternité qui nous constitue femme, qui c'est constitutif de tout, pour toute femme, même si on n'est pas appelé à donner la vie physiquement, on est appelé à donner la vie par tous les pores de notre peau. La maternité nous fait femme, hein, vraiment. Alors je vous raconte parce que mon histoire. Moi, quand je suis née, ma mère voulait avoir 10 garçons, elle était très généreuse, mais aucune fille, elle voulait pas de fille, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait d'études de sa psychologie, et je suis arrivée la cinquième fille, donc c'était un petit peu trop, très rapprochée, j'ai 11 mois de différence avec ma sœur, donc ça a été un peu trop, et elle n'a, donc voilà, forcément, il s'est passé plein de choses à partir de ce rejet de ma féminité. J'ai eu des tas de problèmes pour retrouver mon poids de naissance. À 3 mois, je n'avais pas encore récupéré mon poids de naissance. Et à 6 mois, quand ma maman est partie en vacances parce qu'elle en avait marre de moi, parce que je rejetais tous mes biberons, je me suis laissée mourir. Alors, je suis encore vivante, rassurez-vous, heureusement, mais parce que, voilà, on a rappelé ma mère, et là, elle a eu peur, vraiment, que je meure, et elle a commencé à s'intéresser à moi. Tout ça est ressorti dans des agapé-thérapies, à partir de là, ben voilà, j'ai commencé à digérer, quand ma mère a commencé à s'intéresser à moi. Donc, l'enfant est profondément marqué, vous le savez bien sûr, par ce qui se passe dans le sein de la mère quand elle attend un enfant. Donc attention aux jeunes mamans là qui peuvent être encore mères. Voilà. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, je vivais qu'avec des filles. J'avais 4 sœurs et j'ai pris complètement la place du garçon. Et ma mère me présentait toujours avec un grand sourire en disant « J'ai 5 filles, mais ça c'est mon garçon manqué. » Et je savais que je faisais un plaisir fou à ma mère de commander des mécanos à Noël, de me frustrer de tout ce qui était... voilà, des poupées, de tout un tas de choses. Je ne disais rien à personne, je serrais les poings, mais j'avais mon mécano. Ça me faisait des fois pleurer, hein, de voir ce que mes sœurs avaient comme jouets. Mais moi, il fallait absolument que je plaise à ma mère, sinon je n'existais plus. Hein. Voilà. Alors j'ai fait ça pendant des années, jusqu'à l'adolescence. Le petit garçon manqué de la famille. Alors, vous voyez, quand c'est curieux qu'aujourd'hui on me demande de prêcher des retraites aux femmes. Première fois qu'on m'a demandé ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous venez me chercher? Aller chercher. Il y a tant de femmes qui sont épanouies dans leur féminité, qui n'ont pas eu mes blessures. On m'a dit, écoute, on te le demande, hein. Tu obéis, et puis si ça ne va pas, on te le dira. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme a réussi à regarder au-delà des apparences, parce que c'est ces fausses apparences, ce masque que je m'étais mis, hein, caché bien sûr, refoulé toute ma féminité, mais qui était là, hein, elle était là. Et donc lui, il n'a rien vu du tout, il dit toujours que je suis un peu autiste. Alors il n'a pas vu, tout ce masque que je m'étais mis, et il a su voir au-delà, et il a permis tout doucement de pouvoir faire éclore au moins déjà dans voilà, le côté épouse, et puis après au niveau de la maternité, puisque nous avons pu attendre un enfant assez vite. Mais 2-3 ans après, je suis hospitalisée en urgence, et une première fois 3 semaines, puis après en autre urgence, là je faisais vraiment une hémorragie interne, et on ne savait pas ce que j'avais d'ailleurs, mais bon. Et je vais voir un grand pont à Lyon, m'amène à Lyon, et là on me dit, madame, le médecin me dit, j'aime autant vous prévenir de suite, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Donc j'avais 22-23 ans, un désir fou d'avoir une famille nombreuse, je ne voulais pas 10 garçons, mais je voulais une famille nombreuse, et ça a été un choc terrible pour moi, parce que ça a ravivé, vous le comprenez bien, des blessures de mon enfance. Je ne suis pas une femme comme les autres, je ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux pas être mère, je ne suis pas capable, et voilà. Et donc, on m'a opérée, c'était en fait j'avais une grossesse extra-utérine, mais on avait sauvé une trompe, donc enfin, je pouvais encore avoir des enfants physiologiquement, mais psychologiquement, ça a tout coupé. Et donc, tout processus ovulatoire, et donc je n'ai plus eu de règles pendant 10 ans. Voilà. Alors, pendant ces 10 ans, toute force, là, j'ai cherché à guérir par des tas de thérapies, des médicaments, des ci, des là, prête à faire un énorme investissement pour me sortir de cette stérilité jusqu'au jour, et là, bon, je ne peux pas tout raconter, mais voilà, c'était une recherche de bonheur, un peu comme notre ami hier, Jacques Verlinde, là, le père Verlinde. On est allé dans des endroits où on aurait pu perdre notre âme, hein, on est allé chercher, on ne trouvait plus tellement le sacré dans l'église, c'était après 68, donc on est allé chercher le sacré ailleurs, dans l'ésotérisme, effectivement, enfin, l'anthroposophie, des différentes choses aussi. Et on était terriblement déçus de tout. Et un jour, mon mari me dit, Béatrice, la vérité, elle est dans l'Évangile. Si on revenait à l'Évangile. Alors, j'ai dit, oui, mon petit. Et j'ai été chercher le semainier. J'ai dit, oui, mais on ne le voit pas vivre. C'était terrible pour moi de me dire, la vérité est là, mais on ne le voyait plus vivre dans l'Église. Et donc, je suis allée chercher un semainier, bien empoussiéré. Et je prends la lecture du jour. La lecture de ce jour-là, c'était 3 jours avant Noël. C'était l'Annonciation. Voilà le lien. Alors, mon mari lit, et à la fin, je ne sais pas pourquoi, je répète après lui, et que tout se passe pour moi selon ta parole. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je n'ai pas dit je suis la servante du Seigneur. J'en étais loin. Mais j'ai dit que tout se passe pour moi selon ta parole. Et dans la nuit, je suis réveillée par une douleur dans le bas-ventre, et puis je me rendors, et au petit matin, mes règles que je n'avais plus depuis 10 ans. Jésus. Alors, alléluia, alléluia, ça a été un alléluia extraordinaire. J'étais sûre que Dieu me guérissait. J'ai toujours dit, Dieu, c'est toi qui m'as fabriqué, donc ça ne doit pas être compliqué de me guérir. Je ne sais pas si c'est ton plan. Donc, si c'est ton plan, je te demande de me donner un signe, d'accompagner ma guérison d'un signe clair parce que je ne saurais pas si c'est ma dernière thérapie. Voilà. Et puis pour moi, c'était vraiment clair. Hein, Elisabeth, celle qu'on appelle la stérile, hein, voilà, elle aussi, parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Alors, après, je regarde l'heure, parce que je peux vous raconter en deux temps pour vous obliger à revenir demain. Je vous donnerai la suite demain. Voilà. Donc ça a été une première étape, parce que ça n'a pas été complet. Hein. C'était une première étape, un cycle qui est revenu, mais il n'y avait pas d'ovulation. Donc je vous raconterai après, à travers... demain, nous verrons dans la Genèse, donc ce qui s'est passé pour la femme, très passionnant, vous allez voir, comment la femme s'est fait avoir. Et vous verrez que moi aussi, ben, j'ai encore eu ces combats que Ève a eu. Hein, on est toutes des petites Ève aussi. Et dans quel combat j'ai été. Et puis comment le Seigneur est venu me rechercher. Voilà.
Vous avez
pas parlé de... Oui, vas-y.
Vous avez eu un enfant,
Flavie? Ah, je ne vous dis pas.
Je ne vous dis pas. C'est vrai que vous avez un problème de grossesse extra-utérine.
Ah là, j'ai pas eu d'enfant.
Ah, vous n'avez pas eu d'enfant.
Ah non. Ah non, là, j'ai hémorragie interne, donc on a tout enlevé. Voilà. Mais vraiment se dire que la guérison de notre féminité, vraiment, ce sera mon témoignage pendant ces trois jours, mais est vraiment possible. Hein. Et il faut laisser Jésus vous accompagner dans ce processus de libération. Hein, le cœur d'Ève avait fait fausse route, hein, on l'a vu, on va le voir demain. Le mien aussi, le vôtre aussi peut-être, hein, par le refus de faire confiance à Dieu. C'est toujours cela, la volonté de trouver la vie et le bonheur par nous-mêmes. C'est ça qui nous rend stériles. Et il faut toujours travailler pour... Alors le Seigneur contrecarre nos plans. On a fait nos plans de vie, on a fait nos plans de bonheur. Et puis ça ne marche jamais comme on l'a voulu, heureusement. Et à travers ces choses qui viennent contrarier ces plans de bonheur qu'on s'était fait, ben le Seigneur va nous mener vers une plus grande fécondité, vraiment l'épanouissement de notre vocation.